Voltaire, Les oreilles du comte de Chesterfield et le chapelain Goodman. Chapitre 1. Ah, la fatalité gouverne irrémissiblement toutes les choses de ce monde. J'en juge comme de raison par mon aventure. Milord Chesterfield, qui m'aime fort, m'avait promis de me faire du bien. Il vaquait un bon prélèvement à sa nomination. Je cours du fond de ma province à Londres, je me présente à Milord, je le fais souvenir de ses promesses. Il me serre la main avec amitié et me dit qu'en effet, j'ai bien mauvais visage. Je lui réponds que mon plus grand mal est la pauvreté. Il me réplique qu'il veut me faire guérir et me donne sur le champ une lettre pour M. Sidrac près de Guildhall. Je ne doute pas que M. Sidrac ne soit celui qui doit m'expédier les provisions de ma cure. Je vole chez lui. M. Sidrac, qui était le chirurgien de Milord, se met incontinent en devoir de me sonder et m'assure que, si j'ai la pierre, il me taillera très heureusement. Il faut savoir que Milord avait entendu que j'aurais un grand mal à la vessie, et qu'il avait voulu, selon sa générosité ordinaire, me faire tailler à ses dépens. Il était sourd, aussi bien que monsieur son frère, et je m'en étais pas encore instruit. Pendant le temps que je perds à défendre ma vessie contre monsieur Sidrac, qui voulait me sonder à toute force, un des 52 compétiteurs qui prétendaient au même bénéfice arriva chez Milord, demanda ma cure, et l'emporta. J'étais amoureux de Miss Fiddler, que je devais épouser dès que je serais curé. Mon rival eut ma place et ma maîtresse. Le comte, ayant appris mon désastre et sa méprise, me promit de tout réparer, mais il mourut 2 jours après. Monsieur Sidrac me fit voir clair comme le jour que mon bon protecteur ne pouvait pas vivre 1 minute de plus, vu la constitution présente de ses organes, et me prouva que sa surdité ne venait que de l'extrême sécheresse de la corde et du tambour de son oreille. Il m'offrit même d'endurcir mes 2 oreilles avec de l'esprit de vin, de façon à me rendre plus sourd qu'aucun père du royaume. Je compris que M. Sidrac était un très savant homme. Il m'inspira du goût pour la science de la nature. Je voyais d'ailleurs que c'était un homme charitable, qui me taillerait gratis dans l'occasion, et qui me soulagerait dans tous les accidents qui pourraient m'arriver vers le col de la vessie. Je me mis donc à étudier la nature sous sa direction pour me consoler de la perte de ma cure et de ma maîtresse. Chapitre 2. Après bien des observations sur la nature faites avec mes 5 sens, des lunettes, des microscopes, je dis un jour à M. Sidrac: « On se moque de nous, il n'y a point de nature, tout est art. C'est par un art admirable que toutes les planètes dansent régulièrement autour du soleil, tandis que le soleil fait la roue sur lui-même. » Il faudra assurément que quelqu'un d'aussi savant que la Société royale de Londres ait arrangé les choses de manière que le carré des révolutions de chaque planète soit toujours proportionnel à la racine du cube de leur distance à leur centre. Il faut être sorcier pour le deviner. Le flux et le reflux de notre Tamise me paraît l'effet constant d'un art non moins profond et non moins difficile à connaître. Animaux, végétaux, minéraux, tout me paraît arrangé avec poids, mesure, nombre, mouvement. Tout est ressort, levier, poulie, machine hydraulique, laboratoire de chimie, depuis l'herbe jusqu'au chêne, depuis la puce jusqu'à l'homme, depuis un grain de sable jusqu'à nos nuées. Certainement, il n'y a que de l'art, et la nature est une chimère. Vous avez raison, me répondit monsieur Sidrac, mais vous n'en avez pas les gants. Cela a déjà été dit par ce rêveur de la Manche, mais on n'y a pas fait attention. Mais ce qui m'étonne et ce qui me plaît le plus, c'est que par cet art incompréhensible, deux machines en produisent toujours une troisième. Et je suis bien fâché de n'en avoir pas fait une avec Miss Fielder. Mais je vois bien qu'il était arrangé de toute éternité que Miss Fiddler emploierait une autre machine que moi. Ce que vous dites, me répliqua monsieur Sidrac, a été encore dit, et tant mieux. C'est une probabilité que vous pensez juste. Oui, il est fort plaisant que deux êtres en produisent un troisième. Mais cela n'est pas vrai de tous les êtres. Deux roses se produisent point une troisième rose en se baisant. Deux cailloux, deux métaux n'en produisent pas un troisième. Et cependant, un métal, une pierre sont des choses que toute l'industrie humaine ne saurait faire. Le beau miracle continuel est qu'un garçon et une fille fassent un enfant ensemble, qu'un rossignol fasse un rossignolet à sa rossignole et non pas à une fauvette. Il faudrait passer la moitié de sa vie à les imiter et l'autre moitié à bénir celui qui inventa cette méthode. Il y a dans la génération 1000 secrets tout à fait curieux. Newton dit que la nature se ressemble partout. Natura est ubique sibi consona. Cela est faux en amour. Les poissons, les reptiles, les oiseaux ne font point l'amour comme nous. C'est une variété infinie. La fabrique des êtres sentants et agissants me ravit. Les végétaux ont aussi leur prix. Je m'étonne toujours qu'un grain de blé jeté en terre en produise plusieurs autres. Ah, lui dis-je, comme un sot que j'étais encore, c'est que le blé doit mourir pour naître, comme on l'a dit dans l'école. Monsieur Sidrac me reprit en riant avec beaucoup de circonspection. Cela était vrai du temps de l'école, dit-il. Mais le moindre laboureur sait bien aujourd'hui que la chose est absurde. Ah, monsieur Sidrac, je vous demande pardon. Mais j'ai été théologien et on ne se levait pas tout d'un coup de ses habitudes. Chapitre 3. Quelque temps après ces conversations entre le pauvre prêtre Goodman et l'excellent anatomiste Sidrac, ce chirurgien le rencontra dans le parc Saint-James, tout pensif, tout rêveur et l'air plus embarrassé qu'un algébriste qui vient de faire un faux calcul. Qu'avez-vous? Lui dit Sidrac. Est-ce la vessie ou le côlon qui vous tourmente? Non, dit Goodman, c'est la vésicule du fiel. Je viens de voir passer dans un bon carrosse l'évêque de Gloucester, qui est un pédant, bavard et insolent. J'étais à pied et cela m'a irrité. J'ai songé que je voulais avoir un évêché dans son royaume. Il y a 10 000 à parier, contre un, que je ne l'aurais pas, attendu que nous sommes 10 000 prêtres en Angleterre. Je suis sans aucune protection depuis la mort de Mr. Chesterfield, qui était sourd. Posons que les 10 000 prêtres anglicans aient chacun deux protecteurs. Il y aura ce cas 20 000 à parier, contre un, que je n'aurai pas l'évêché. Cela fâche quand on y fait attention. Je me suis souvenu qu'on m'avait proposé autrefois d'aller aux Grandes Indes en qualité de mousse. On m'a assuré que j'y ferais une grande fortune, mais je ne me sentis pas propre à devenir un jour amiral. Et après avoir examiné toutes les professions, je suis resté prêtre sans être bon à rien. Ben, ne soyez plus prêtre, lui dit Sidrac, et faites-vous philosophe. Ce métier n'exige ni ne donne des richesses. Quel est votre revenu? Moi, je n'ai que 30 guinées de rente, et après la mort de ma vieille tante, j'en aurai 50. Allons, mon cher Goodman, c'est assez pour vivre libre et pour penser. 30 guinées font 630 shillings. C'est près de 2 shillings par jour. Phillips n'en voulait qu'un seul. On peut, avec ce revenu assuré, dire tout ce qu'on pense à la Compagnie des Indes, du Parlement, aux colonies, du roi, de l'être en général, de l'homme et de Dieu, ce qui est un grand amusement. Venez dîner avec moi, cela vous épargnera de l'argent. Nous causerons, et notre faculté pensante aura le plaisir de se communiquer à la mienne par le moyen de la parole. Ce qui est une chose merveilleuse que les hommes n'admirent pas assez. Chapitre 4. Conversation du docteur Goodman et de l'anatomiste Sidrac sur l'âme et sur le quelque autre chose. Goodman. Mais mon cher Sidrac, pourquoi dites-vous toujours ma faculté pensante? Que ne dites-vous mon âme tout court? Ça serait plutôt fait, et je vous entendrai tout aussi bien. Sidrac. Eh, moi, je ne m'entendrai pas. Je sens bien, je sais bien que Dieu m'a donné la faculté de penser et de parler. Mais je le sens ni ne sais s'il m'a donné un être qu'on appelle âme. Goodman. Vraiment, quand j'y réfléchis, je vois que je n'en sais rien en plus et que j'ai été longtemps assez hardi pour croire le savoir. J'ai remarqué que les peuples orientaux appelèrent âme d'un nom qui signifiait la vie. À leur exemple, les Latins entendirent d'abord par anima la vie de l'animal. Chez les Grecs, on disait la respiration de l'âme. Cette respiration est un souffle. Les Latins traduisirent le mot souffle par spiritus, de là le mot qui répond à esprit chez presque toutes les nations modernes. Et comme personne n'a jamais vu ce souffle, cet esprit, on en a fait un être que personne ne peut voir ni toucher. On a dit qu'il logeait dans notre corps sans y tenir de place, qu'il remuait nos organes sans les atteindre. Que n'a-t-on pas dit? Tous nos discours, à ce qu'il me semble, ont été fondés sur des équivoques. Je vois que le sage Locke a bien senti dans quel chaos ces équivoques de toutes les langues avaient plongé la raison humaine. Il n'a fait aucun chapitre sur l'âme dans le seul livre de métaphysique raisonnable qu'on ait jamais écrit. Et si par hasard il prononce ce mot en quelques endroits, ce mot ne signifie chez lui que notre intelligence. En effet, tout le monde sent bien qu'il a une intelligence, qu'il reçoit des idées, qu'il en assemble, qu'il en décompose. Mais personne ne sent qu'il y ait dans lui un autre être qui lui donne le mouvement des sensations et des pensées. Il est au fond ridicule de prononcer les mots qu'on n'entend pas et d'admettre des êtres dont on peut avoir la plus légère connaissance. Ah ben, alors, voilà donc déjà d'accord sur une chose qui a été un objet de dispute pendant des siècles. Mais j'admire que nous soyons d'accord. Et ce n'est pas étonnant, nous cherchons le vrai de bonne foi. Si nous étions sur les bancs de l'école, nous argumenterions comme les personnages de Rabelais. Si nous vivions dans les siècles de ténèbres affreuses qui enveloppèrent si longtemps l'Angleterre, l'un de nous ferait peut-être brûler l'autre. Bon, nous sommes dans un siècle de raison, nous trouvons aisément ce qui nous paraît la vérité, nous osons la dire. Goodman. Oui, mais j'ai peur que cette vérité ne soit bien peu de chose. Nous avons fait en mathématiques des prodiges qui étonneraient Apollonius et Archimède et qui les rendraient nos écoliers, mais en métaphysique, qu'avons-nous trouvé? Notre ignorance. Eh, n'est-ce rien? Vous convenez que le grand être vous a donné une faculté de sentir et de penser, comme il a donné à vos pieds la faculté de marcher, à vos mains le pouvoir de faire 1000 ouvrages, à vos viscères le pouvoir de digérer, à votre cœur le pouvoir de pousser votre sang dans vos artères. Nous tenons tout de lui. Nous n'avons rien pu nous donner, or nous ignorons toujours la manière dont le maître de l'univers s'y prend pour nous conduire. Pour moi, je lui rends grâce de m'avoir appris que je ne sais rien des premiers principes. On a toujours recherché comment l'âme agit sur le corps. Il fallait d'abord savoir si nous en avions une. Ou Dieu nous a fait ce présent, ou il nous a communiqué quelque chose qui est l'équivalent. De quelque manière qu'il y soit pris, nous sommes sous sa main. Il est notre maître, voilà tout ce que je sais. Mais au moins, dites-moi ce que vous en soupçonnez. Vous avez disséqué des cerveaux, vous avez vu des embryons et des fœtus. Et avez-vous découvert quelque apparence d'âme ? Non, pas le moins du monde, et je n'ai jamais pu comprendre comment un être immatériel, immortel, logé pendant 9 mois, mais inutilement caché dans une membrane puante entre de l'urine et des excréments. Il m'a paru difficile de concevoir que cette prétendue âme simple existât avant la formation de son corps. Car à quoi aurait-elle servi pendant des siècles sans être âme humaine? Et puis comment imaginer un être simple, un être métaphysique, qui attend pendant une éternité le moment d'animer de la matière pendant quelques minutes? Que devient cet être inconnu si le fœtus qui doit animer meurt dans le ventre de sa mère? Oh, il m'a paru encore plus ridicule que Dieu créa une âme au moment qu'un homme couche avec une femme. Il m'a semblé blasphématoire que Dieu attendit la consommation d'un adultère, d'un inceste, pour récompenser ses turpitudes en créant des âmes en leur faveur. Et c'est encore pire quand on me dit que Dieu tire du néant des âmes immortelles pour leur faire souffrir éternellement des tourments incroyables. Quoi, brûler des êtres simples, des êtres qui n'ont rien de brûlable? Mais comment nous y prendrions-nous pour brûler un son de voix, un vent qui vient de passer? Encore ce son, ce vent, était matériel dans le petit moment de leur passage. Mais un esprit pur, une pensée, un doute, oh, je m'y perds. De quelque côté que je me tourne, je le trouve qu'obscurité, contradiction, impossibilité, ridicule, rêverie, impertinence, chimère, absurdité, bêtise, charlatanerie. Mais je suis à mon aise quand je me dis « Dieu est le maître ». Celui qui fait graviter des astres innombrables les uns vers les autres, celui qui fit la lumière est bien assez puissant pour nous donner des sentiments et des idées, sans que nous ayons besoin d'un petit atome étranger, invisible, appelé âme. Dieu a donné certainement du sentiment, de la mémoire, de l'industrie à tous les animaux. Il leur a donné la vie, et il est bien aussi beau de faire présent de la vie que de faire présent d'une âme. Il est assez reçu que les animaux vivent. Il est démontré qu'ils ont du sentiment, puisqu'ils ont des organes du sentiment. Or, s'ils ont tout cela sans âme, pourquoi voulons-nous à toute force en avoir une ? Goodman. Ah, peut-être c'est par vanité. Je suis persuadé que si un paon pouvait parler, il se vanterait d'avoir une âme, et il dirait que son âme est dans sa queue. Je me sens très enclin à soupçonner avec vous que Dieu nous a fait mangeant, buvant, marchant, dormant, sentant, pensant, plein de passion, d'orgueil et de misère, sans nous dire un mot de son secret. Nous n'en savons pas plus sur cet article que ce paon dont je parle, et celui qui a dit que nous naissions, vivons et mourons sans savoir comment, a dit une grande vérité. Celui qui nous appelle les marionnettes de la Providence me paraît nous avoir bien défini, car enfin, pour que nous existions, il faut une infinité de mouvements. Or, nous n'avons pas fait le mouvement. Ce n'est pas nous qui avons établi les lois. Il y a quelqu'un qui, ayant fait la lumière, l'a fait mouvoir du soleil à nos yeux et est arrivé en 7 minutes. Ce n'est que par le mouvement que mes 5 sens sont remués. Ce n'est que par ces 5 sens que j'ai des idées. Donc c'est l'auteur du mouvement qui me donne des idées. Et quand il me dira de quelle manière il me les donne, je lui rendrai de très humbles actions de grâce. Je lui en rends déjà beaucoup de m'avoir permis de contempler pendant quelques années le magnifique spectacle de ce monde, comme disait Épictète. Il est vrai qu'il pouvait me rendre plus heureux et me faire avoir un bon bénéfice, et ma maîtresse, Miss Fiddler, mais oh, enfin, tel que je suis, avec mes 630 shillings de rente, aujourd'hui encore bien de l'obligation. Sidrac. Vous dites que Dieu pouvait vous donner un bon bénéfice et qu'il pourrait vous rendre plus heureux que vous êtes. Il y a des gens qui ne vous passeraient pas cette proposition. Et ne vous souvenez-vous pas que vous-même, vous êtes plein de la fatalité? Il n'est pas permis à un homme qui a voulu être curé de se contredire. Ne voyez-vous pas que, si vous aviez eu la cure et la femme que vous demandiez, ce serait vous qui auriez fait un enfant à Miss Fiddler et non pas à votre rivale? L'enfant dont elle aurait accouché aurait pu être mousse, devenir amiral, gagner une bataille navale à l'embouchure du Gange, et achevé de détrôner le grand Mogol. Cela seul aurait changé la constitution de l'univers. Il aurait fallu un monde tout différent du nôtre pour que votre compétiteur n'eût pas la cure, pour qu'il n'épousât pas Miss Fiddler, pour que vous ne fussiez pas réduit à 630 shillings en attendant la mort de votre tante. Tout est enchaîné, et Dieu n'ira pas rompre la chaîne éternelle pour mon ami Goodman. Oh, je ne m'attendais pas à ce raisonnement quand je parlais de fatalité. Mais enfin, si cela est ainsi, Dieu est donc esclave tout comme moi. Il est esclave de sa volonté, de sa sagesse, des propres lois qu'il a faites, de sa nature nécessaire. Il ne peut les enfreindre parce qu'il ne peut être faible, inconstant, volage comme nous, et que l'être nécessairement éternel ne peut être une girouette. Monsieur Sidrac, mais cela pourrait mener tout droit à l'irreligion, car si Dieu ne peut rien changer aux affaires de ce monde, à quoi bon chanter ses louanges, à quoi bon lui adresser des prières? Et qui vous a dit de prier Dieu et de le louer? Il a vraiment bien à faire de vos louanges et de vos placets. On loue un homme parce qu'on le croit vain, on le prie quand on le croit faible et qu'on espère le faire changer d'avis. Faisons notre devoir envers Dieu, adorons-le, soyons justes. Voilà nos vraies louanges, nos vraies prières. Monsieur Sidrac, nous avons embrassé bien du terrain, car, sans compter Miss Fiddler, nous examinons si nous avons une âme, s'il y a un Dieu, s'il peut changer, si nous sommes destinés à deux vies, si... Ce sont là de profondes études, et peut-être je n'y aurais jamais pensé si j'avais été curé. Il faut que j'approfondisse ces choses nécessaires et sublimes, puisque je n'ai rien à faire. Eh bien, demain, le docteur Grou vient dîner chez moi. C'est un médecin fort instruit. Il a fait le tour du monde avec Monsieur Banks et Slander. Il doit certainement connaître Dieu et l'âme, le vrai et le faux, le juste et l'injuste, bien mieux que ceux qui ne sont jamais sortis de Covent Garden. De plus, le docteur Grou a vu presque toute l'Europe dans sa jeunesse. Il a été témoin de 5 ou 6 révolutions en Russie. Il fréquente le Bachat comme de Bonneval. qui était devenu, comme on sait, un parfait musulman à Constantinople. Il a été lié avec le prêtre papiste McCarthy, irlandais, qui se fit couper le prépuce à l'honneur de Mahomet, et avec notre presbytérien écossais Ramsay, qui en fit autant, et qui ensuite servit en Russie et fut tué dans une bataille contre les Suédois en Finlande. Enfin, il a conversé avec le révérend père Malagrida, qui a été brûlé depuis à Lisbonne, parce que la Sainte Vierge lui avait révélé tout ce qu'elle avait fait lorsqu'elle était dans le ventre de sa mère Sainte-Anne. Vous sentez bien qu'un homme comme M. Groux, qui a vu tant de choses, doit être le plus grand métaphysicien du monde. Bon, alors à demain donc chez moi, à dîner. Et après-demain encore, mon cher Sidrac, car il faut plus d'un dîner pour s'instruire. Chapitre 5. Le lendemain, les trois penseurs dînèrent ensemble. Et comme ils devenaient un peu plus gais vers la fin du repas, selon la coutume des philosophes qui dînent, on se divertit à parler de toutes les misères, de toutes les sottises, de toutes les horreurs qui affligent le genre animal, depuis les terres australes jusqu'auprès du pôle arctique, et depuis Lima jusqu'à Miyako. Cette diversité d'abominations ne laisse pas d'être fort amusante. C'est un plaisir que n'ont pas les bourgeois casaniers et les vicaires de paroisse qui ne connaissent que leur clocher et qui croient que tout le reste de l'univers est fait comme Exchange Alley à Londres ou comme la rue de la Huchette à Paris. Je remarque, dit le docteur Groux, que malgré la variété infinie répandue sur ce globe, cependant tous les hommes que j'ai vus, soit en noir à laine, soit noir à cheveux, soit bronzé, soit rouge, soit bis, qui s'appellent blancs, ont également deux jambes, deux yeux et une tête sur leurs épaules, quoi qu'on ait dit saint Augustin, qui dans son 37e sermon assure qu'il a vu des acéphales, c'est-à-dire des hommes sans tête, des hommes monocules, qui n'ont qu'un œil, et des monopèdes qui n'ont qu'une jambe. Pour des anthropophages, j'avoue qu'on en regorge, et que tout le monde l'a été. On m'a souvent demandé si les habitants de ce pays immense nommé la Nouvelle-Zélande, qui sont aujourd'hui les plus barbares de tous les barbares, étaient baptisés. Mais j'ai répondu que je n'en savais rien, que cela pouvait être que les Juifs, qui étaient plus barbares qu'eux, avaient eu deux baptêmes au lieu d'un, le baptême de justice et le baptême de domicile. « Vraiment, je les connais, » dit M. Goodman, « et j'ai sur cela de grandes disputes avec ceux qui croient que nous avons inventé le baptême. Non, messieurs, nous n'avons rien inventé, nous n'avons fait que rapetasser. Mais dites-moi, je vous en prie, M. Groux, de 80 ou 100 religions que vous avez vues en chemin, laquelle vous a paru la plus agréable? Est-ce celle des Zélandais ou celle des Hottentots ?»« Monsieur Groux. C'est celle de l'île d'Otaïli, sans aucune comparaison. J'ai parcouru les deux hémisphères, je n'ai rien vu comme Tahiti et sa religieuse reine. » C'est dans Tahiti que la nature habite. Je n'ai vu d'ailleurs que des masques. Je n'ai vu que des fripons qui trompent des sots, des charlatans qui escamotent l'argent des autres pour avoir de l'autorité, et qui escamotent de l'autorité pour avoir de l'argent impunément, qui vous vendent des toiles d'araignée pour manger vos perdrix, qui vous promettent richesse et plaisir quand il n'y aura plus personne afin que vous tourniez la broche pendant qu'ils existent. Pardi, il n'en est pas de même dans l'île d'Haïti ou d'Otaïti. Cette île est bien plus civilisée que celle de Zélande et que le pays des Cafres, et, j'ose dire, que notre Angleterre, parce que la nature l'a favorisée d'un sol plus fertile. Elle lui a donné l'arbre à pain, présent aussi utile qu'admirable, qu'elle n'a fait qu'à quelques îles de la mer du Sud. Tahiti possède d'ailleurs beaucoup de volailles, de légumes et de fruits. On n'a pas besoin, dans un tel pays, de manger son semblable. Mais il y a un besoin plus naturel, plus doux, plus universel, que la religion de Tahiti ordonne de satisfaire en public. C'est de toutes les cérémonies religieuses la plus respectable sans doute. J'en ai été témoin, aussi bien que tout l'équipage de notre vaisseau. Ce ne sont point ici des fables de missionnaires, telles qu'on en trouve quelquefois dans les lettres édifiantes et curieuses des révérends pères jésuites. Le docteur Hawkesworth achève actuellement de faire imprimer nos découvertes dans l'hémisphère méridional. J'ai toujours accompagné M. Banks, jeune homme si estimable, qui a consacré son temps et son bien à observer la nature vers le pôle antarctique. Tandis que M. Dawkins et Wood revenaient des ruines de Palmyre et de Baalbek, où ils avaient fouillé les plus anciens monuments des arts, et que M. Hamilton apprenait aux Napolitains étonnés l'histoire naturelle de leur mont Vésuve. Enfin, j'ai vu avec M. Banks, Solander, Cook et cent autres ce que je vais vous raconter. La princesse Obeira, reine de l'île de Tahiti, alors on apporta le café et dès qu'on l'eut pris, M. Grou continua ainsi son récit. Chapitre 6. La princesse Obeira, dis-je, après nous avoir comblé de présents avec une politesse digne d'une reine d'Angleterre, fut curieuse d'assister un matin à notre service anglican. Nous le célébrâmes aussi pompeusement que nous pûmes. Elle nous invita au sien l'après-midi. C'était le 14 mai 1769. Nous la trouvâmes entourée d'environ 1000 personnes des deux sexes, rangées en demi-cercle et dans un silence respectueux. Une jeune fille très jolie, simplement parée d'un déshabillé galant, était couchée sur une estrade qui servait d'hôtel. La reine Obeira ordonna à un beau garçon d'environ 20 ans d'aller sacrifier. Il prononça une espèce de prière et monta sur l'autel. Les deux sacrificateurs étaient à demi nus. La reine, d'un air majestueux, enseignait à la jeune victime la manière la plus convenable de consommer le sacrifice. Tous les Otahitiens étaient si attentifs et si respectueux qu'aucun de nos matelots n'osa troubler la cérémonie par un rire indécent. Et voilà ce que j'ai vu, vous dis-je. Voilà tout ce que notre équipage a vu. C'est à vous d'en tirer les conséquences. Oh, cette fête sacrée ne m'étonne pas, dit le docteur Goodman. Oh, je suis persuadé que c'est la première fête que les hommes aient jamais célébrée. Je ne vois pas pourquoi on ne prierait pas Dieu lorsqu'on va faire un être à son image, comme nous le prions avant les repas qui servent à soutenir notre corps. Travailler à faire naître une créature raisonnable est l'action la plus noble et la plus sainte. C'est ainsi que pensaient les premiers Indiens qui révérèrent de Ligarne, symbole de la génération. Les anciens Égyptiens qui portaient en procession le phallus, les Grecs qui érigèrent des temples à Priape. S'il est permis de citer la misérable petite nation juive, grossière imitatrice de toutes ces visions voisins, il est dit dans ses livres que le peuple adora Priape et que la reine-mère du roi juif Fassa fut sa grande prêtresse. Quoi qu'il en soit, il est très vraisemblable que jamais aucun peuple n'établit ni ne put établir un culte par libertinage. La débauche s'y glisse quelquefois dans la suite des temps, mais l'institution est toujours innocente et pure. Nos premières agapes dans lesquelles les garçons et les filles se baisaient modestement sur la bouche ne générèrent qu'assez tard en rendez-vous et en infidélité. Et plût à Dieu que je pus sacrifier avec Miss Fiddler devant la reine Obeyra, en tout bien et en tout honneur. Ce serait assurément le plus beau jour et la plus belle action de ma vie. Monsieur Sidrac, qui avait jusque-là gardé le silence, parce que Messieurs Goodman et Grou avaient toujours parlé, sortit enfin de sa taciturnité et dit « Tout ce que je viens d'entendre me ravit en admiration. La reine Obeyra me paraît la première reine de l'hémisphère méridional, je n'ose dire des deux hémisphères. Mais parmi tant de gloire et tant de félicité, il y a un article qui me fait frémir et dont M. Goodman vous a dit un mot auquel vous n'avez pas répondu. Est-il vrai, M. Grou, que le capitaine Wallace, qui mouilla dans cette île fortunée avant vous, y porta les deux plus horribles fléaux de la terre, les deux véroles? Hélas, reprit M. Grou, ce sont les Français qui nous en accusent, et nous en accusons les Français. Monsieur de Bougainville dit que ce sont ces maudits Anglais qui ont donné la vérole à la reine Obeyra, et Monsieur Cook prétend que cette reine ne l'a acquise que de Monsieur de Bougainville lui-même. Quoi qu'il en soit, la vérole ressemble aux beaux-arts. On ne sait point qui en fut l'inventeur. Mais à la longue, ils font le tour de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. Il y a longtemps que j'exerce la chirurgie, dit Sidrac, et j'avoue que je dois à cette vérole la plus grande partie de ma fortune. Mais je ne déteste pas moins. Madame Sidrac me la communiqua dès la première nuit de ses noces, et comme c'est une femme excessivement délicate sur ce qui peut entamer son honneur, elle publia dans tous les papiers publics de Londres qu'elle était à la vérité attaquée du mal immonde, mais qu'elle l'avait apportée du ventre de madame sa mère et que c'était une ancienne habitude de famille. À quoi pensa ce qu'on appelle la nature quand elle versa ce poison dans les sources de la vie? On l'a dit, et je le répète, c'est la plus énorme et la plus détestable de toutes les contradictions. Quoi? L'homme a été fait, dit-on, à l'image de Dieu. Finxit ineffigem moderatum cuncta deorum. Et c'est dans les vaisseaux spermatiques de cette image qu'on a mis la douleur, l'infection et la mort. Que deviendra ce beau vers de Milord Rochester? L'amour ferait adorer Dieu dans un pays d'athées. Hélas, dit alors le bon Goodman, j'ai peut-être à remercier la Providence de n'avoir pas épousé ma chère Miss Fiddler, car sait-on ce qui serait arrivé? On n'est jamais sûr de rien dans ce monde. En tout cas, Monsieur Sidrac, vous m'avez promis votre aide dans tout ce qui concernerait ma vessie. Mais je suis à votre service, répondit Sidrac, mais il faut chasser ces mauvaises pensées. Goodman, en parlant ainsi, semblait prévoir sa destinée. Chapitre 7. Le lendemain, les trois philosophes agitèrent la grande question: quel est le premier mobile de toutes les actions des hommes? Goodman, qui avait toujours sur le cœur la perte de son bénéfice et de sa bien-aimée, dit que le principe de tout était l'amour et l'ambition. Grou, qui avait vu plus de pays, dit que c'était l'argent, et le grand anatomiste Sidrac assura que c'était la chaise percée. Les deux convives demeurèrent tout étonnés, et voici comment le savant Sidrac prouva sa thèse. J'ai toujours observé que toutes les affaires de ce monde dépendaient de l'opinion et de la volonté d'un principal personnage, soit roi, soit premier ministre, soit premier commis. Or, cette opinion et cette volonté sont l'effet immédiat de la manière dont les esprits animaux se filtrent dans le cervelet et de là dans la moelle allongée. Ces esprits animaux dépendent de la circulation du sang. Ce sang dépend de la formation du chyle. Ce chyle s'élabore dans le réseau du mésentère. Ce mésentère est attaché aux intestins par des filets très déliés. Ces intestins, s'il m'est permis de le dire, sont remplis de merde. Or, malgré les trois fortes tuniques dont chaque intestin est vêtu, il est percé comme un crible. Car tout est à jour dans la nature. Il y a un grain de sable si imperceptible qu'il est plus de 500 pores. On ferait passer 1 000 aiguilles à travers un boulet de canon si on en trouvait d'assez fines et d'assez fortes. Qu'arrive-t-il donc à un homme constipé? Les éléments les plus ténus, les plus délicats de sa merde se mêlent au chyle dans les veines d'Azélius, vont à la veine porte et dans le réservoir de Pecquet, elles passent dans la sous-clavière. Elles entrent dans le cœur de l'homme le plus galant, de la femme la plus coquette. C'est une rosée d'étrons desséchés qui court dans tout son corps. Et si cette rosée inonde les parenchymes, les vaisseaux et les glandes dans la trabe biliaire, sa mauvaise humeur devient férocité. Le blanc de ses yeux est d'un sombre ardent. Ses lèvres sont collées l'une à l'autre. La couleur de son visage a des teintes brouillées. Il semble qu'il vous menace, ne l'approchez pas. Et si c'est un ministre d'État, gardez-vous de lui présenter une requête. Il ne regarde tout papier que comme un secours dont il voudrait bien se servir, selon l'ancien et abominable usage des gens d'Europe. Informez-vous adroitement de son valet de chambre favori, si Monseigneur a poussé sa selle le matin. Cela est plus important qu'on ne pense. La constipation a produit quelquefois les scènes les plus sanglantes. Mon grand-père, qui est mort centenaire, était apothicaire de Cromwell. Il m'a conté souvent que Cromwell n'avait pas été à la garde-robe depuis 8 jours, lorsqu'il fit couper la tête à son roi. Tous les gens un peu instruits des affaires du continent savent que l'on avertit souvent le duc de Guise de Balafré de ne pas fâcher Henri III en hiver pendant un vent de nord-est. Ce monarque n'allait alors à la garde-robe qu'avec une difficulté extrême. Ses matières lui montaient à la tête. Il était capable, dans ces temps-là, de toutes les violences. Le duc de Guise ne crut pas un si large conseil. Que lui en arriva-t-il? Son frère et lui furent assassinés. Charles IX, son prédécesseur, était l'homme le plus constipé de son royaume. Les conduits de son côlon et son rectum étaient si bouchés qu'à la fin son sang jaillit par ses pores. On ne sait que trop que ce tempérament adus fut une des principales causes de la Saint-Barthélemy. Au contraire, les personnes qui ont de l'embonpoint, les entrailles veloutées, le col édoc coulant, le mouvement péristaltique aisé et régulier, qui s'acquittent tous les matins dès qu'elles ont déjeuné d'une bonne selle aussi aisément qu'on crache, ces personnes, favorites de la nature, sont douces, affables, gracieuses, prévenantes, compatissantes, officieuses. Un non dans leur bouche a plus de grâce qu'un oui dans la bouche d'un constipé. La garde-robe a tant d'empire qu'un dévoiement rend souvent un homme pusillanime. La dysenterie ôte le courage. Ne proposez pas à un homme affaibli par l'insomnie, par une fièvre lente et par 50 déjections putrides, d'aller attaquer une demi-lune en plein jour. C'est pourquoi je ne puis croire que toute notre année, armée la dysenterie à la bataille d'Azincourt, comme on le dit, et qu'elle remporta la victoire pilote bas. Quelques soldats auront-ils le dévouement pour s'être gorgés de mauvais raisins dans la route, et les historiens auront dit que toute l'armée malade se battit à cul nu, et que pour ne pas le montrer aux petits maîtres français, elle les battit à plate couture, selon l'expression du jésuite Daniel. Et voilà justement comment on écrit l'histoire. C'est ainsi que les Français ont tous répété les uns après les autres que notre grand Édouard III se fit livrer six bourgeois de Calais la corde au cou pour les faire pendre, parce qu'ils avaient été soutenir le siège avec courage, et que sa femme obtint enfin leur pardon par ses larmes. Ces romanciers ne savent pas que c'était la coutume dans ces temps barbares que les bourgeois se présentassent devant leur vainqueur, la corde au cou, quand ils avaient arrêté trop longtemps devant une bicoque. Mais certainement le généreux Édouard n'avait nulle envie de serrer le cou de ces six otages qu'il combla de présents et d'honneurs. Je suis las de toutes les fadaises dont tant d'historiens prétendus ont farci leurs chroniques et de toutes les batailles qu'ils ont si mal décrites. J'aime autant croire que Gédéon remporta une victoire signalée avec 300 cruches. Je ne lis plus, Dieu merci, que l'histoire naturelle, pourvu qu'un Burnet et un Winston et un Woodward ne m'ennuient plus de leur maudit système, qu'un Maillet ne me dise pas que la mer d'Irlande a produit le mont Caucase et que notre globe est de verre, pourvu qu'on ne me donne pas de petits joncs aquatiques pour des animaux voraces et le corail pour des insectes. Pourvu que des charlatans ne se donnent pas inconsciemment leurs rêveries pour des vérités. Je fais plus de cas d'un bon régime qui entretient mes humeurs en équilibre et qui me procure une digestion louable et un sommeil plein. Buvez chaud quand il gèle, buvez froid dans la canicule. Rien de trop ni de trop peu en tout genre. Digérez, dormez, ayez du plaisir et moquez-vous du reste. Dernier chapitre 8. Comme M. Sidrac proférait ces sages paroles, on vint avertir M. Goodman que l'intendant du feu comte de Chesterfield était à la porte dans son carrosse et demandait à lui parler pour une affaire très pressante. Goodman court pour recevoir les ordres de monsieur l'intendant, qui d'ailleurs priait de monter, et lui dit « Monsieur, vous savez sans doute ce qui arriva à monsieur et à madame Sidrac la première nuit de leurs noces. »« Oh oui, monsieur, il me contait tout à l'heure cette petite aventure. »« Eh bien, il en est arrivé tout autant à la belle mademoiselle Fidler et à monsieur le curé, son mari. » Le lendemain, ils se sont battus, le surlendemain, ils se sont séparés, et on a ôté à monsieur le curé son bénéfice. J'aime la Fidler, je sais qu'elle vous aime, elle ne me hait pas, je suis au-dessus de la petite disgrâce qui est cause de son divorce. Je suis amoureux et intrépide. Cédez-moi, Miss Fidler, et je vous fais avoir la cure, qui vaut 150 guinées de revenus. Je ne vous donne que 10 minutes pour y rêver. Monsieur, la proposition est délicate. Je vais consulter nos philosophes Sidrac et Grou. Je suis à vous sans tarder. Il revola à ses deux conseillers. Oh, je vois, dit-il, que la digestion ne décide pas seule des affaires de ce monde, et que l'amour, l'ambition, l'argent y ont beaucoup de part. Il leur expose le cas, les prie de le déterminer sur le champ. Tous deux conclurent qu'avec 150 guinées, il aurait toutes les filles de sa paroisse et encore Miss Feeder par-dessus le marché. Goodman sentit la sagesse de cette décision. Il eut la cure, il eut Miss Fiddler en secret, ce qui était bien plus doux que de l'avoir pour femme. Monsieur Sidrac lui prodigua ses bons offices dans l'occasion. Il est devenu l'un des plus terribles prêtres de l'Angleterre, et il est plus persuadé que jamais de la fatalité qui gouverne toutes les choses de ce monde.